Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Point de mire met en valeur la Fédération mondiale des docteurs d'État et l'Académie européenne, dont nous recevons le président, Jacques-Michel Durand. Vous avez, je dirais, deux casquettes, si l'on peut dire. D'abord, avant d'en venir à votre présentation propre et à ce que fait la Fédération mondiale des docteurs d'État, j'aimerais que l'on s'attarde deux secondes sur un mot que nous avons en commun, Canal Académie et l'Académie européenne.
Vous voulez que je présente l'Académie européenne ?
Ce mot d'académie, c'est ce lien que nous tissons.
L'Académie européenne a été fondée en 1983, donc ce n'est pas une fondation récente. Et effectivement, on nous a semblé nécessaire d'avoir une organisation non engagée dans les problèmes politiques qui analyse sérieusement, avec précision, tout ce qui peut arriver dans l'actualité de tous les jours, mais également des problèmes de fond. De même façon que nous avons étudié de façon profonde tous les problèmes de type agricole, de type universitaire, de type politique au sens de la science politique, de type juridique. Nous rendons chaque année un compte-rendu complet de ce style de sujet et il se trouve qu'effectivement, nous avons l'unicité dans le genre. Alors nous avons notamment, nous venons de perdre, il faut le dire, notre ami Henri Vronsky, professeur docteur Henri Vronsky, qui vient de mourir et qui a été remplacé par une personne polonaise également, qui est en relation avec l'Académie polonaise et qui aura toute licence de nous accorder avec les pays de l'Est notamment.
Mais alors, Jacques-Michel Durand, sur cette Académie européenne, ici on connaît bien les 5 académies, vous n'avez pas de lien direct avec l'Institut ?
Nous n'avons aucun lien direct avec l'Institut de France. Il se trouve que c'est une initiative qui a été créée il y a quelques années et nous avons pensé à quelques-uns qu'il était nécessaire d'avoir une académie réflexive, au départ d'ailleurs notamment sur l'appréciation des langues européennes. Car effectivement, la sémantique des langues est importante. Si vous considérez le fait que pratiquement toutes les langues européennes sont pénétrées de latin et du grec. Et notamment, nous avons eu très vite audience en Union soviétique, encore que nous n'étions pas du tout soviétiques, parce qu'effectivement, cette notion de langue avait une importance. Ah, effectivement, quand vous voyez en face les langues asiatiques, vous avez un petit problème, c'est qu'effectivement, le problème de l'inversion de la pensée par idéogramme et les idéogrammes fait que nous n'avons pas du tout la même conception de l'appréciation, ne serait-ce que la façon dont on peut concevoir le beurre ou le fromage. C'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile de se joindre sur ce plan-là. Ça n'empêche pas qu'il faille le faire. Mais il se trouve que, par exemple, le Vietnam a une chance sur les autres pays. C'est grâce justement à un certain nombre de prêtres et il s'est trouvé des gens pour unifier la langue de ce qu'on appelle le Vietnam. Entre parenthèses, ça veut dire le matin tranquille. Donc, c'est pas inintéressant de le savoir.
Jacques-Michel Durand, ce mot d'académie, il n'a pas été choisi par hasard ?
Non, parce qu'il se trouve que nous considérons que nous sommes quelque chose qui peut ressembler à l'Académie française ou à une académie autre dans toute espèce de région du monde. Ceci étant donné que personnellement, je suis français, j'attache beaucoup d'importance à la défense de la langue française.
Alors Jacques-Michel Durand, pour vous présenter quelque peu succinctement, puisque vous avez quand même quantité de fonctions et vous avez eu quantité de fonctions tout au long de votre carrière, vous êtes universitaire, docteur d'État, vous êtes président donc de cette Académie européenne et de la Fédération mondiale des docteurs d'État dont nous allons parler, président aussi de l'Académie paysanne, c'est encore une autre académie.
Attention, il faut le dire en entier.
L'Académie paysanne des sciences,
inscriptions et belles-lettres, qui est quelque chose de relativement très ancien là.
Alors, quel est ce lien justement entre paysanne, des sciences, inscriptions et belles-lettres ?
Tout simplement parce que cette académie a été fondée en relation avec le Conseil permanent des physiocrates de France. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que les physiocrates.
Rappelez-le quand même.
Nous étions des défenseurs de la nature avant la lettre, mais surtout des défenseurs de ceux qui habitent la nature, c'est-à-dire les paysans. Et pourquoi, de temps en temps, nous indignons que quelques personnages hétéroclites viennent dire qu'ils sont des paysans alors qu'ils n'en ont jamais été, n'ayant jamais élevé le moindre volaille et n'étant pas diplômé de quelque élevage que ce soit. Car ça existe, les élevages techniques et les diplômes qui y correspondent.
Donc, Académie paysanne, inscription, alors des sciences, inscription et belles lettres.
Inscription et belles lettres parce qu'il y a tout l'aspect artistique afférent à la paysannerie qui ne correspond pas forcément à des gribouillages modernes.
Vous êtes ancien responsable d'un groupe de travaux publics, président d'organisation professionnelle agricole et vous-même, vous avez été diplômé, vous avez un diplôme d'éleveur.
Oui, justement.
Donc, vous êtes en lien avec cette réalité. Vacher-porcher,
je dirais même, étant donné qu'on va parler tout à l'heure de la Fédération mondiale des docteurs d'État, j'ai mon certificat d'études primaires et j'en suis très fier. J'ai été élevé dans une école communale.
Vous êtes un fils de la communale. Et vous avez un diplôme aujourd'hui qui, donc Vacher-Porcher, qui correspond à un diplôme, je dirais, qui vous donne quelles attributions, puisque le monde paysan n'est plus évident aujourd'hui pour tout le monde.
Ah, la notion paysan, c'est quelqu'un qui appartient à un paysage d'abord et qui ensuite y vit. Il vit en étant exploitant. C'est-à-dire que lorsque vous êtes, comme certains, fils d'un professeur et qui a enseigné à Berkeley, qui a été aux États-Unis et qui ensuite revient à France pour les histoires du Larzac, qui ensuite épouse la directrice de la société Roquefort, ne peut pas du tout dire pour autant que c'est un paysan s'il achète 3 poulets et 4 volailles sur les terrains militaires.
Contre José Bové.
Non, je ne parle de personne.
Vous ne parlez de personne en particulier.
Non, c'est complètement irréel.
Toute ressemblance avec un personnage connu est naturellement fortuite. Ancien membre du comité directeur de l'Association française de sciences économiques, membre de la Société d'économie politique.
J'ai été vice-président de l'Association des docteurs en sciences économiques ensuite.
Et puis, vous êtes aussi président depuis 2001 du jury international de l'éducation, de la science et de la culture européenne.
Mais ce qui est intéressant, pour la suite, c'est que je suis dans les 3 associations nationales de docteurs. Il y a des responsabilités dans les 3 responsabilités, sauf chez le docteur en droit.
Alors, je termine justement avec ça. Membre de l'Observatoire international du droit et de la bioéthique, ce n'est pas anodin. Président du jury des lettres et des sciences paysannes. On revient à ce goût que vous avez du monde paysan et des choses bien ancrées dans le réel.
Si vous voulez, ce jury attribue des médailles chaque année à des gens que nous considérons comme ayant rendu des services éminents à la communauté paysanne. Et d'ailleurs, nous choisissions, lorsque nous étions reçus plus exactement chaque année au Salon international de la machine agricole, par exemple, il nous est arrivé de prendre comme président du jury quelqu'un comme Henri Guiton pour donner la médaille. Ce qui ne veut pas dire qu'Henri Guiton était le moindre monde paysan. Henri Guiton, oui.
Rappelez un peu son personnage.
Henri Guiton était membre de l'Institut et il se trouve que c'était un professeur agrégé de sciences économiques parfaitement éminent et que nous avons chargé des personnalités extérieures à la paysannerie pour donner un certain lustre à cette réception. Bon, si vous voulez, c'est quand même le jury des lettres et des sciences paysannes qui le fait tout seul, sans l'intervention d'aucune personnalité extérieure à l'agriculture.
Jacques-Michel Durand, j'aimerais que nous nous recentrions à présent sur ce qui fait un peu le cœur de cette émission, de ce point de mire consacré à la Fédération mondiale des docteurs d'État. C'est une initiative qui remonte à 2004. Vous étiez 5 au départ, vous êtes plus de 1000 aujourd'hui, donc un succès réel. Les adhésions, je crois, d'après ce que vous me disiez, affluent. À quel besoin correspond une Fédération mondiale des docteurs d'État ?
Bon, ça correspond d'abord au fait qu'en France, on n'a pas de notion précise de ce qu'est le doctorat d'État. Bon, le doctorat d'État, il faut bien comprendre ce que c'est. Vous avez le doctorat d'État en droit dont les agrégés sont choisis parmi les docteurs et qui ne comportait depuis jamais aucune sélection autre que celle du bachot. Vous avez le doctorat S sciences et le doctorat S lettres qui comportent d'abord une sélection qui n'existe plus, d'études littéraires générales et de mathématiques générales, puis de protépédeutique, et que Georges Pompidou, qui était lui-même un docteur d'État ès-lettres, a supprimé. Le doctorat d'État ès-lettres, bon, le doctorat en sciences et le doctorat ès-lettres, c'était une série de 5 pour la licence d'enseignement supérieur, de 5 des CES, certificats d'études supérieures indépendants, qui formaient une licence d'enseignement. Bon, on arrivait à un doctorat de premier jus, et ensuite un doctorat d'État. Ensuite, pour le droit, vous aviez uniquement un passage d'un étage à l'autre avec une certaine sélection. Bon, on a tout changé et on a transformé.
Mais on a tout changé quand ?
À partir de 68.
Ah oui, d'accord, donc ça a quand même une trentaine d'années, alors que votre association, enfin votre fédération, remonte à 2004.
Oui, mais nous en arrivons à faire un constat que la sélection n'opère plus. Si vous voulez, du jour où vous avez des licences S-lettres qui se passent en 4 années, comme la licence en droit, vous n'avez plus d'autonomie des diplômes, donc plus de sériation des doctorats différents. Il faut comprendre ça.
C'est-à-dire que, autrefois, d'après ce que vous nous dites, les docteurs d'État, c'était le point culminant de la formation universitaire.
C'est le point culminant.
Ça demeure.
Ça demeure.
C'est pour y accéder que
c'est tout le problème.
Les choses
c'est
ont changé.
Nous sommes un peu... C'est un peu difficile de vous dire ça en 3 minutes, mais si vous voulez, on a beaucoup scolarisé les études universitaires. Et on aboutit à avoir des doctorats de grade supérieur qui ne correspondent plus à l'origine. Car le problème du doctorat, justement, qui peut être source de diffuseur, parce que c'est un peu ça qu'on avait pensé, ou vivier diffuseur, c'est-à-dire que c'est un travail tout à fait personnel, autonome, et qui apprend quelque chose à un jury.
Ça, ce sont les critères du doctorat.
C'est le critère du doctorat, c'est après une espèce de scolarisation relativement longue, vous avez, et pluridisciplinaire, dans tous les sens du droit, des sciences, des lettres, etc., vous arrivez à un travail, comment dire, un chef-d'œuvre que vous présentez, et ce chef-d'œuvre doit vous mettre à égalité avec un jury d'agrégés, mais surtout d'agrégés en droit, mais de docteurs d'État en lettres, qui vous considèrent comme ses égaux. Et les séances doivent être publiques et supporter toutes les critiques. Parce qu'effectivement, l'intérêt du doctorat d'État tel qu'il a été conçu, c'est précisément d'aboutir, après une très forte sélection, à faire un travail personnel, qui apprenne quelque chose à quelqu'un. C'est de l'artisanat au sens le plus pur du mot.
Ou de la recherche.
De la recherche, mais qui aboutit à un travail, à un chef-d'œuvre.
On est censé faire avancer la
discipline.
C'est-à-dire
que la recherche peut être contrôlée,
oui.
Mais à partir du moment où vous arrivez au stade du doctorat d'État, vous n'êtes plus contrôlé, il n'y a que le professeur qui accepte ou qui n'accepte pas votre travail, et votre travail pour l'époque doit être quelque chose de nouveau, de créateur, et surtout qui vous met à égalité avec votre jury.
Alors ça, c'est le principe, hein. C'est le principe tel que ça a été quand même jusqu'à une période relativement récente.
C'est le principe. Par exemple, à un moment donné, m'excuse de parler de mon problème personnel. En sciences économiques, j'ai présenté une thèse sur Leontief. C'était la seule thèse qui existait à l'époque. Bon, ça a été intéressant puisque c'était inconnu de tout le monde. Maintenant, c'est désuet, puisque beaucoup de mathématiciens contestent la méthode. Mais à l'époque, ça apportait quand même un peu quelque chose de connaître Leontief. D'abord, en plus de ça, d'avoir des relations suivies en France avec lui. Parce que moi, je l'ai connu, par exemple, jusqu'à sa mort, et c'était quelqu'un qui avait toujours quelque chose à apporter. Ça fait découvrir à la fois la personne et l'œuvre, mais dans certains cas, c'est l'œuvre toute seule.
Jacques-Michel Durand, vous êtes avec nous pour nous parler de la Fédération mondiale des docteurs d'État. On se retrouve dans quelques instants.
Les avancées dans la recherche médicale et les espoirs thérapeutiques de demain, Canal Academy vous propose une douzaine d'émissions sur ce thème. Quand l'imagerie médicale permet de lutter contre le cancer, quand la technique satellitaire peut servir à guérir en Afrique, quand la chirurgie appose une greffe sur un visage, mais aussi quand les médecins et les philosophes s'interrogent sur le clonage thérapeutique et la bioéthique. Soyez à la pointe des dernières découvertes et avancées médicales grâce au travail de diffusion du savoir par l'Académie des sciences.
Point de mire avec Jacques-Michel Durand avec nous pour nous parler de la Fédération mondiale des docteurs d'État. Jacques-Michel Durand, universitaire docteur d'État, qui préside également l'Académie européenne. Et je ne reviens pas sur toutes les distinctions qui sont les vôtres, Jacques-Michel Durand. À travers votre combat, c'est bien sûr le combat pour un enseignement de qualité, pour la langue française, pour toutes les valeurs auxquelles nous sommes attachés ici même à Canal Academy. Alors, vous nous avez parlé des docteurs d'État, ce que devait apporter le docteur d'État à sa discipline, qu'il était censé faire avancer. Et donc, vous estimez que depuis quelque temps, enfin depuis les années 70, grosso modo, on est arrivé à un système qui ne sélectionne plus ces docteurs d'État et qui donc dévalorise inévitablement les diplômes. Si je vous suis bien, c'est ça.
Bon, alors je vais d'abord faire un petit rectificatif, si vous permettez.
Allez-y.
Fédération mondiale des docteurs d'État et diplômés des universités de la France. Car
il faut le préciser.
Nous acceptons des docteurs que nous appelons diplômés. Vous voyez, ce n'est pas des diplômes et des études supérieures. Bon, alors, pour revenir à votre question...
Mais tous
question,
les docteurs sont diplômés.
Oui, mais je parle des docteurs d'État et docteurs diplômés qui ne sont pas docteurs d'État, que nous acceptons au jugé de notre propre jugement.
Mmh.
Bon, alors, pour ce qui est du problème de 68, puisque c'est le problème de 68 qui se pose, le gros problème qui se pose, ce n'est pas seulement le problème universitaire directement. Si vous voulez, autrefois, bon, il y avait beaucoup de gens qui passaient leur certificat d'études primaires et à partir de là, continuaient par leurs études. C'était formidable, étant donné que nous avions des instituteurs déjà très sélectionnés, qui avaient 60 personnes en classe qui étaient d'âge différent et qui arrivaient à faire connaître le français et le calcul mental. C'était déjà considérable.
On oublie que les classes étaient à ce point surchargées.
Oui, mais c'était un couple qu'il faisait volontiers dans des villages, c'était tout à fait fréquent et ça ne posait pas de problème. D'ailleurs, ces instituteurs étaient facilement de gauche et on n'avait rien à leur reprocher parce qu'ils étaient fortement sélectionnés et ils étaient parfaits sur le fond de la façon de faire. Bon, il y avait ensuite le problème du baccalauréat. Bon, le baccalauréat, jusqu'à une période récente, c'était une sélection relativement très importante. Vous aviez 80% d'échecs au baccalauréat, rappelez-vous. Maintenant, vous avez 8% d'échecs. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Oui, mais en filière générale, c'est quand même 1 sur 2. Hein.
Oui, mais enfin, tout ce que vous voulez, tout le monde veut faire le bachot, et ça n'est plus un bachot qui correspond à quelque chose. Je crois que, si vous voulez, même au niveau des études littéraires, il faut faire très attention à savoir qu'il est extrêmement difficile de faire latin grec à notre époque. À cette époque-là. Autrefois, les gens qui avaient quelques qualités faisaient en première partie de bachot latin grec et en deuxième partie de bachot mathélem. C'est ce qu'on faisait généralement, qui représentait une culture générale. Et vous aviez beaucoup de polytechniciens qui étaient agrégés de grammaire. Bon, alors il y a une baisse générale qui est due au fait que le bachot n'est plus sanctionneur qu'autrefois. Alors le deuxième problème, c'est que justement, avec la suppression de ce qui a remplacé les mathématiques générales, etc., c'est-à-dire les propédeutiques, vous avez un accès libre. Alors, vous trompez les gens à faire des études littéraires, notamment, c'est là où les lettres souffrent le plus, en acceptant tout le monde de cette façon-là. Parce que les lettres, si vous voulez, c'est extrêmement fondamental pour la défense de la langue française, donc pour la défense de toute espèce de diplôme, quel qu'il soit. Et donc, le fait que vous ayez de moins en moins de possibilités d'avoir des docteurs d'État crédibles, d'une part, et que d'autre part, pour des disciplines comme la psychologie, elles sont parfaitement sous-estimées, parce qu'elles font partie de la licence de philosophie. Or, autrefois, le fait que le certificat d'études supérieures de psychologie était séparé, ça permettait de savoir où on allait.
Mais Jacques-Michel Durand, vous nous dites que la sélection n'étant plus ce qu'elle était, les diplômes se dévalorisent puisque plus d'élèves, d'étudiants y ont accès et que la sélection, elle se fait à un autre niveau. Elle se fait non pas au début, mais à la fin maintenant.
Et ça qui est grave.
Oui, mais ça veut dire que le niveau des diplômes ne s'est pas forcément dévalorisé. Vous avez simplement plus de gens qui butent sur le dernier marchepied.
Oui, enfin, si vous voulez, toujours vos doctorats de spécialité et le reste, vous arrivez... Bon, si vous voulez, je vais faire une comparaison internationale. Autrefois, nous étions à équivalence de doctorat avec les Allemands. Le sommet, ce sont toujours les Scandinaves. Et maintenant, à force de faire de la démagogie de diplôme, vous arrivez à être au niveau des Italiens. C'est-il doctoré généralisé? C'est ça qui est grave.
La France en est venue à ce point?
Elle est en pente directe dans ce sens. C'est pour ça, si vous voulez, que nous avons réagi pour faire cette fédération qui fait comprendre aux gens que nous sommes, en tant que fédération, français ou étranger appartenant à la Fédération mondiale des docteurs d'État et diplômés des universités de France, parfaitement appréciés à l'étranger. Quand mon secrétaire général, Janine Galeomono, qui est professeur docteur Eslet, va aux États-Unis, linguiste, on comprend tout de suite qu'elle peut être informaticienne. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait en France? Pour trouver des mathématiciens correspondants, elle va chez les docteurs et sciences mathématiques, docteurs d'État et sciences mathématiques, formés en France. Car nous avons encore un shtel, pour parler de manière paysanne, important en matière de doctorat. Mais dites-vous bien que l'appréciation que nous avons à l'étranger et les docteurs étrangers titulaires de doctorat français réussissent très bien, notamment aux États-Unis, où nous avons plusieurs sous-fédérations.
Oui, mais alors ça contrecarre.
Et en Afrique, n'en parlons pas.
Ça contrecarre ce que vous disiez. Ça veut dire que les diplômes ne sont pas si dévalorisés que cela, puisque justement, les docteurs d'État sont reconnus.
Pour le moment, parce qu'on est beaucoup sur l'ancienneté. Et il faut revenir à une certaine forme de doctorat d'État telle qu'elle existait, qui fait la réputation à l'extérieur. C'est-à-dire que nous vivons sur le capital des doctorats d'État. C'est ça. Et c'est dangereux. Et les gens s'apercevront un jour que nous vendons de la pacotille au lieu de l'original.
À quoi voyez-vous que le diplôme est moins, j'allais dire, répond à des critères moins sélectifs que naguère?
Ah ben ça se voit très bien, les chiffres.
C'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire que si vous voulez, comme vous avez de plus en plus de bacheliers et que vous avez la même proportion de gens reçus, vous avez forcément un capital extraordinaire de gens qui finissent par arriver à ce qu'on appelle les doctorats de spécialité, qui à mon avis sont une erreur.
C'est-à-dire combien? Quelle est la proportion?
Vous permettez que je continue mon raisonnement. Voyez-vous, un doctorat d'État ou un doctorat qui correspond à quelque chose, comme je vous l'ai dit, c'est une œuvre personnelle qui est le capital d'un choix. D'un choix. Or, les doctorats spécialités sont imposés par un professeur et ça correspond à ce que nous appelons dans les travaux publics un mémoire ou un compte-rendu de chantier. C'est très bien d'avoir des comptes-rendus de chantier, mais ça n'apporte rien en plus de ce que c'est. C'est la relation d'un état existant.
C'est-à-dire que
nous sommes ravis, lorsque vous êtes chef d'entreprise de travaux publics, d'avoir des comptes rendus de chantier. Et c'était très important pour la suite de savoir comment s'est construit Ting, comment s'est construit les barrages du Rhône. Mais l'important, ce n'est pas ça, c'est de concevoir. Et pour ça, c'est pour ça que nous avions un petit peu intitulé cet exposé, les docteurs d'État, source de décideurs. Parce qu'évidemment, quand vous décidez tout seul d'une thèse, vous prenez des risques. Lorsque vous décidez tout seul d'une entreprise que de quelque chose, vous prenez des risques. De surcroît, ce qui est important, c'est lorsque vous êtes dans une entreprise de travaux publics, je m'excuse d'y revenir, et que vous avez autour de vous des gens qui d'ailleurs maintenant, finalement, sont très peu connus à l'étranger, sauf HEC qui a fait un effort considérable, mais Polytechnique, les mines centrales, à l'étranger, c'est pratiquement inconnu. C'est dommage, d'ailleurs. Je vais faire mal voir de tout le monde en disant ça. Mais si vous voulez, lorsque vous êtes dans une entreprise,
ça se voit dans les classements internationaux.
Quelqu'un qui est capable de faire une synthèse de ce qu'il a autour de lui comme collaborateur, c'est quand même mieux quand c'est un docteur d'État, que ce soit un docteur d'État de n'importe quelle formation. Ceci étant, effectivement, il y a des docteurs d'État qui sont obnubilés par une seule idée, par exemple des docteurs d'État en droit qui ne voient rigoureusement une certaine forme de procédure, qui passent leur vie là-dessus, à inventer des trucs de procédure qui sont d'ailleurs fort utiles. Mais dans la vie réelle, l'intérêt du doctorat tel qu'on l'a connu, c'est que ce soit des littéraires ou autres, c'est que ça permettait justement d'avoir des décideurs. D'autre part, ce qui est important aussi, et à mon avis, il faut en revenir là-dessus, c'est qu'il ne faut pas tout le temps obliger à une scolarité, car en fait, nous avons créé une scolarité très importante dans les universités, parce qu'on ne l'a pas avant. Et le fait de créer des solidarités empêche les gens qui travaillent d'avoir des diplômes, parce qu'autrefois, on passait des examens en travaillant. Or, le fait justement d'être tout le temps pratique toute la journée et d'avoir la possibilité ensuite de faire quelque chose de libre, de concret, d'imaginatif si vous voulez, est très important. Et c'est pour ça que je regrette, moi, que si vous voulez, on ne puisse plus maintenant faire à la fois une carrière dans une entreprise et en passer des diplômes. Car après tout...
Ah, ça peut se faire quand même, non ?
Pratiquement pas. Parce que pratiquement, lorsque vous êtes docteur ès lettres au départ et que vous faites de la communication dans une entreprise, vous pouvez terminer ensuite comme docteur en sciences mathématiques. Et c'est important de le faire. Et sur le tard, éventuellement, de présenter les langues orientales vivantes. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais actuellement, il y a quand même une contrainte de présence que vous n'aviez pas autrefois.
Donc ça veut dire que les étudiants, vous voudriez les mettre au travail beaucoup plus tôt et qu'ils...
Mais ils peuvent profiter de leur carrière pour passer
des diplômes.
Je ne vais pas me mettre tout le temps en exemple, mais c'est comme ça que j'ai fait, moi. Si vous voulez, je n'aurais passé aucun examen si j'avais été contraint à une présence aussi importante. À mon avis, ce qui est important, c'est que même si vous obligez pendant quelques années à la contrainte scolaire, puisque dans le primaire et le secondaire, vous avez des défauts, mettons, de scolarité. Hein, parce qu'il faut trouver aussi que dans les études de lettres, vous trouvez encore des gens qui n'ont pas la notion de ce qu'est que l'écriture correcte. Pas l'oublier, ça. Bon, effectivement, pour la philosophie, on dit que ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas vrai, car un bon mot en psychologie est très important. Parce que si vous ne dites pas un bon mot en psychologie, vous foutez en l'air votre diagnostic. Et vous savez que la psychologie est littéraire, mais qu'elle fonctionne quand même avec la médecine et la science. C'est ça.
Oui, oui, tout à fait. Alors, Jacques-Michel Durand, je reviens quand même à ma question, puisque quelle est la proportion aujourd'hui d'élèves qui ont le doctorat d'État, qui l'obtiennent ? Par rapport à ce que vous avez connu quand vous l'avez passé.
Alors moi, je vais vous dire un seul chiffre, parce que le reste, je ne le connais pas par cœur. Hein.
Un chiffre éloquent.
Je vais vous donner un chiffre très simple. Je vais remonter à la guerre de 14, c'est-à-dire au début du doctorat d'État. Bon, au début du doctorat d'État, quand j'ai passé mon doctorat d'État et sciences économiques, nous étions 45 pour la France et l'Union française.
Ce n'était pas en 1914.
Je vous dis ça. En 54. 45 en France pour la France et l'Union française. Bon, actuellement, on en est à 200-300.
200-300 par an ?
Oui, pratiquement. Et en plus de ça, il y a trop de laxisme, il faut bien le dire, de la part d'un certain nombre d'associations de docteurs qui devraient être beaucoup plus sévères sur le plan de l'appartenance. Nous, on est extrêmement sévères, on n'accepte que les docteurs.
C'est-à-dire que des associations sont ouvertes excessivement...
Il y a quelques associations que je ne nommerai pas et dont je regrette qu'elles soient beaucoup trop bienveillantes.
Mais alors, j'ai envie de vous dire, Jacques-Michel Durand, on est passé de 45 à 300. Bon, certes, mais...
Par an, hein ?
Par an, mais le monde a aussi beaucoup changé, c'est beaucoup complexifié,
oui,
c'est beaucoup
sûr,
étendu.
Bien sûr.
Les compétences se sont étendues.
Il ne s'agit pas de refaire l'histoire, il s'agit simplement de voir quels sont les gens qualifiés. Bon, il vaut mieux en avoir peu, mais qui correspondent à quelque chose.
Et là,
pour les juristes, c'est beaucoup plus important. C'était déjà plus important à l'époque, et c'est beaucoup plus important encore. Mais le chiffre exact, je ne le connais pas
science.
Vraiment.
Là, c'est en sciences. Alors, pour les autres disciplines,
je ne le connais pas vraiment pour les docteurs et sciences économiques de cette année. Mm-hmm. Je ne le sais pas. Mais je vous dis, à l'époque, ce n'était pas invraisemblable d'avoir aussi peu de docteurs, parce que c'était au départ. Mais à l'arrivée, moi, je crois qu'effectivement, il faut limiter le champ.
Et c'est-à-dire que dans votre association, donc, dont je rappelle qu'elle
d'autant
s'appelle...
D'autant plus que vous avez des agrégés à la suite.
Ce qui multiplie le nombre de diplômés, alors.
Ben oui, non, j'ai tort, mais j'ai plus que ça comme docteur en ce moment. Ça doit être 400, 450, quelque chose comme ça, puisque vous avez... Non, parce que je réfléchis en ce moment. Je sais qu'au départ, c'était comme ça. Non, parce que pour l'agrégation, je pense qu'étant donné que ce sont des agrégés parmi les docteurs, c'est pas la même chose que pour les docteurs parmi les agrégés. Ou parmi rien du tout. Parce que l'intérêt du doctorat en lettres et du doctorat en sciences, c'est que vous passez directement du doctorat sans avoir forcément l'agrégation. Parce que ce n'est pas uniquement fait pour enseigner hein, l'agrégation.
À tout de suite, Jacques-Michel Durand.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Point de mire avec Jacques-Michel Durand qui préside la Fédération mondiale des docteurs d'État et des diplômes.
Et diplômés des universités de la France.
Voilà, de la France.
FND.
Et donc, c'est évidemment une mention que vous avez eu l'occasion d'expliquer parce que vous nous disiez que vous étiez ouvert pas seulement aux docteurs d'État, mais à ceux qui ne sont pas d'État. Est-ce que vous êtes ouvert, puisque vous déploriez à l'instant le fait qu'à peu près des 300 docteurs d'État, la France fabrique 300 docteurs d'État, par exemple, dans les disciplines que vous mentionniez en sciences.
Non, en sciences économiques.
En sciences économiques.
Il y a plus que ça. Je reviens sur le chiffre.
Mais hein. Vous les accueillez dans votre association ?
À ceux qui sont diplômés, sûrement pas.
Alors, vous restez fermé à ceux qui obtiennent les diplômes.
Dans la mesure, non, mais il faut voir quels sont les docteurs d'État. Hein.
Et alors, qui acceptez-vous comme
Les docteurs qui correspondent aux critères du doctorat d'État.
Mais si ces critères ne sont pas respectés aujourd'hui,
C'est un jugement que nous avons.
Et sur quel examen ?
Sur la qualité de la thèse.
La qualité de la thèse. Donc vous lisez les thèses et vous dites, voilà, cette personne, elle est en mesure, elle apporte vraiment quelque chose à sa discipline.
Non, mais on est actuellement majoritairement docteur d'État. Et on est quand même 2000.
Et ça vous arrive de refuser des personnes qui frappent à votre porte parce que vous estimez que la thèse n'est pas de qualité ?
Bien sûr, c'est logique ça. Mais le problème, ce n'est pas tellement de refuser ou d'accueillir, c'est l'œuvre que nous faisons. C'est-à-dire d'avoir la possibilité de répandre la francophonie dans tous les domaines scientifiques, littéraires et autres. Parce que si vous voulez, les gens qui sont étrangers et titulaires du doctorat d'État, ils existent quand même beaucoup et sont très ardents. Ce sont d'ailleurs eux qui regrettent le plus qu'il y ait eu des réformes. Et puis alors, il y a des choses qu'il ne faut pas faire non plus. C'est par exemple, au niveau de l'université globale, faire des histoires comme celles qu'on a fait pour le CPE. Il y avait des erreurs des deux côtés, peut-être. Je n'en sais rien, je ne juge pas. Mais il est de fait certain, c'est qu'au niveau international, faire des manifestations comme ça, ce sont des erreurs. Mais je crois aussi qu'il faut aussi beaucoup tenir compte du fait qu'il ne faut pas se laisser se dégrader le doctorat au niveau du doctorat italien. C'est ce que je vous ai dit. Il faut garder le métrage du doctorat scandinave.
Et qui correspond à des critères
de sélection très importants et de rareté. Je crois qu'il faut une rareté.
Est-ce que vous en avez parlé à l'Éducation nationale ?
Ah oui, mais on n'a jamais été reçu par l'Éducation nationale. Moi, j'ai demandé des entrevues avec tous les ministres, on n'y arrive pas. Par contre, nous avons des réunions à Paris qui sont relativement très importantes. Je parle de Paris parce qu'il n'y a pas que Paris. Hein.
Par exemple,
c'est idiot, mais les réunions que nous avons faites au Liban, la dernière qu'on avait faite au Liban, c'était l'année dernière, en fin d'année. Ça représentait 450 personnes, la dernière réunion qu'on a fait à Beyrouth. Donc c'est quand même assez important. Bon, à Paris, on ne fait pas de grandes réunions. On fait des réunions sur des thèmes, pas sur l'objet, sur des thèmes. Et on arrive à avoir 100, 150, 200 personnes. Et on n'invite pas que des docteurs et sciences, quelquefois, sur des thèmes plus généraux. Par exemple, on va faire une réunion avec Antoine Sfer sur l'islam en Europe. Là, on va ouvrir les portes aux autres, ne serait-ce que pour faire connaître ce que l'on peut dire sur ce sujet-là.
Sur des thèmes d'actualité qui peuvent intéresser votre auditoire.
N'importe lesquels.
Auditoire.
Par exemple, aussi bien aimé, on va probablement faire une chose sur son dernier livre de sciences économiques. Mais on n'est pas obligé, si vous voulez, de faire réunion uniquement en se regardant dans les quatre yeux. Ce qui est important, c'est de faire savoir les travaux des docteurs d'État, et sciences économiques, en droit, etc.
Est-ce que tous les doctorats d'État sont dans la même situation ?
Moi, je trouve c'est ce que les meilleurs doctorats d'État actuels, sur le plan de la qualité, ceux qui existent, hein, sont certainement les meilleurs.
Mais lesquels ?
Les doctorats et sciences.
Les doctorats et sciences, donc.
Et ensuite, vous avez ceux de lettres qui sont extraordinaires, les trois quarts du temps, parce qu'ils apportent quelque chose, contrairement à ce qu'on croit.
Oui.
Et les autres, si vous voulez, bon, le doctorat en sciences économiques, effectivement, c'est assez facile, du simple fait, je m'excuse de dire ça parce que j'en suis, j'ai le droit, mais quand même, si vous voulez, le fait d'être docteur en sciences économiques et les contacts que l'on peut avoir avec des entreprises est beaucoup plus facile. Et docteur en droit, il y a quand même une profession. Mais si vous voulez, les docteurs en sciences français apporte énormément. Et d'ailleurs, je fais une petite allusion, je ne sais pas si je l'ai déjà faite tout à l'heure, mais par exemple, nous avions un grand chercheur sur le cancer et qui a été mis à la retraite parce qu'il avait l'âge. Il était empêché de travailler. Qu'est-ce qui se passe? Il va aux États-Unis. Par parenthèse, je trouve un peu lamentable qu'on empêche les gens de cette qualité par des obstacles de retraite de continuer à travailler.
Vous dites que... Donc, les doctorats d'État, alors qu'il s'agisse du doctorat sciences, S-lettres, sciences économiques, droit, sont donc menacés par une dévalorisation des diplômes. Mais aujourd'hui, les personnes qui sortent avec ce doctorat, elles obtiennent quand même des choses satisfaisantes, des postes satisfaisants. Ça compte sur le marché du travail.
Paradoxalement, on est beaucoup mieux reçu à l'étranger que l'on est en France.
Quand vous dites « on », c'est-à-dire...
Vous, moi, n'importe qui. C'est-à-dire que, si vous voulez, en France, on est tellement peu au courant de l'université et le fait que les médias, pas le vôtre, que les médias tapent sur l'université à longueur de journée, que finalement, on est bien moins bien reçu par les employeurs que lorsque vous êtes reçu en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, même au Japon, hein. On a une réputation fantastique et on est en train de la casser. C'est nous qui la cassons, c'est les médias.
Quand vous dites,
pas le vôtre.
Quand vous dites on est bien reçu, vous parlez des docteurs d'État.
Oui.
Puisque vous disiez tout à l'heure que même des écoles comme Polytechnique ou
ne sont pas connues
à l'étranger.
Ne sont pratiquement pas connues à l'étranger. C'est pour ça qu'il faut utiliser l'atout que nous avons, sauf HSC. Je dis ça parce que
HSC effectivement est dans le classement international d'ailleurs des.
Je ne suis pas du tout HSC, écoles. Mais je vous le dis parce que c'est vrai, ils ont fait un gros effort international. Mais si vous
HSC au départ, ce n'était vraiment pas grand-chose. Hein,
mais si vous voulez,
au départ.
Oui, au départ, c'est vous dire une chose, ce sont les docteurs en sciences économiques qui ont lancé HSC. Je dis ça parce que j'ai un copain qui est HSC, qui n'est pas très loin. Bon, mais c'est vrai qu'il n'est pas docteur d'État. Mais si vous voulez, c'est vrai qu'HSC a fait un gros boulot. Mais par contre, si vous voulez, hors la France, les autres diplômes sont très peu connus, alors que le doctorat, c'est notre atout. Et il se trouve que nous avons des correspondants. À la limite, on peut dire qu'actuellement, au niveau des membres, on a pratiquement moitié-moitié de membres étrangers, de membres en France. C'est vous dire. Et ça continue dans ce sens. Et il se trouve qu'heureusement, on a des gens très actifs en Australie, un peu partout. J'ai même fait une réunion à CAF, je vous l'ai peut-être dit déjà. Bon, c'est une chose faisable. Mais il faut continuer, si vous voulez. Il y a un effort qui n'est pas seulement, comme je vous l'ai dit, de rester entre soi, mais aussi de faire des réunions qui mettent en valeur les travaux des différents docteurs. Mais je vous dis, les docteurs en sciences en particulier et les docteurs en lettres ont une réputation qu'on ignore en France.
Et qui, évidemment...
Et nous, on voit que les docteurs en droit ou les docteurs en sciences économiques.
J'en parle
allègrement, puisque je suis docteur en droit, que j'appartiens à l'association, et que j'ai été vice-président de l'association des docteurs en sciences économiques. Donc, je vois ce que c'est.
Donc évidemment, toutes ces vocations qui ne sont pas reconnues en France vont s'épanouir à l'étranger. Elles sont encore reconnues, mais vous nous dites que le chemin faisant, ces diplômes vont...
Non, mais si vous voulez, je veux dire par là...
Vont se dévaloriser.
C'est que non, les associations existantes en France marchent très bien. Il n'y a pas d'association littéraire en France, pratiquement pas d'association... Enfin, bon, mais si vous voulez, les associations de docteurs marchent admirablement, que je veux dire par là. Mais si vous voulez, c'est entre soi et c'est parfait. Le docteur en sciences économiques aussi. Mais là où je trouve dommage, c'est que justement, on voit peu le problème international. Et les parents pauvres, dans l'optique française, ce sont les docteurs en lettres et les docteurs en sciences. Les docteurs en sciences, alors véritablement, ça fait un boom à l'étranger.
Est-ce que vous voyez d'un bon œil ou d'un mauvais œil la réforme LMD pour l'enseignement ?
Ah, expliquez-moi.
La licence, vous savez, maintenant...
Licence
on a, le DUG n'existe plus. On va d'abord sur l'étape des 3 ans, celle de la licence. Après, on passe une maîtrise qui, en fait, est devenue une sorte de master. Il y a une sorte de refondation de l'enseignement supérieur. Est-ce que ça joue sur le doctorat ou bien ce que les choses, pour l'instant... qui, en fait, est une réforme européenne. C'est-à-dire qu'on s'est aligné sur une norme européenne.
Écoutez, moi, j'attends de voir venir.
Vous attendez de voir venir ?
Non, parce que moi, je vois ce qui est, le recrutement que j'ai comme membre, et je vois que ça marche. C'est tout ce que je vois. Je vois justement que l'audience des gens que nous avons déjà est relativement importante, notamment à l'étranger. Je parle à l'étranger, parce que c'est ça, le problème, c'est que l'étranger, on s'en occupe peu.
Mais pourtant, ça marche. Donc, c'est là que les docteurs...
Ça marche justement du fait que maintenant, il y a une cohésion.
D'accord.
Et je crois que justement, pour influer sur la marche du doctorat en France, par le fait qu'on aura l'importance et de poids à l'étranger, mieux ce sera.
Jacques-Michel Durand, est-ce que l'on peut, avec cette Fédération mondiale des docteurs d'État, parler un peu des moyens d'action qui sont à votre disposition pour influer sur le cours des choses ? Quels sont les moyens que vous vous donnez pour
on a très peu
les mettre
de moyens
au service de vos ambitions ?
On est à l'état primaire.
À l'état primaire, vous avez votre bonne volonté.
Ah oui, c'est la volonté des gens.
Et Canal Academy.
Canal Academy. Mais non, on a besoin de soutien, ça, il n'y a pas de doute. Mais comment voulez-vous que de 2004 à 2007, étant donné qu'on a commencé l'année dernière à faire des réunions en France, on l'a fait à l'étranger avec les moyens des gens de l'étranger. Hein. Mais actuellement, on est très, très peu outillés et on va y arriver. Mais si vous voulez, c'est comme pour tout le reste. Il faut commencer par avoir des adhérents et ensuite, on fait ce qu'il faut.
Donc aujourd'hui, à peu près 1000 adhérents qui composent cette Fédération mondiale des docteurs d'État. Vous allez souvent à l'étranger ?
Oui, plutôt, effectivement, c'est nécessaire. Ou alors, par exemple, mon trésorier, là, Jean-Pierre Panis, là, est actuellement aux Indes pour 3 semaines.
Est-ce qu'il n'y a pas, c'est une question peut-être un peu trop vaste, mais il y a aujourd'hui l'émergence de pays justement dits émergents, de pays pauvres qui le sont de moins en moins, du moins pour une partie de la population qui les compose, et qui vont prendre les places que les Occidentaux occupaient avant. Et on sait bien que les Occidentaux aussi délocalisent en grande partie leurs industries, leurs forces de production dans des pays justement comme l'Inde ou la Turquie, que des centres de recherche-développement ne sont plus en Occident, mais dans ces pays dits émergents. Cela va remettre en cause aussi la valeur du diplôme.
Peut-être.
Non.
Peut-être, je ne sais pas. Pour le moment, je vois ce que c'est, hein, c'est tout. Moi, ce qui m'intéresse...
Parce que les diplômes suivent aussi le rayonnement du pays qui les octroie.
Peut-être, mais enfin, si vous voulez, moi, je vois que le doctorat français est très, très apprécié dans des grands pays comme les États-Unis.
Et est-ce que des doctorats, par exemple, de pays comme l'Inde ou d'autres pays, alors commencent
là,
à avoir une valeur ?
En Inde, nous avons des subdivisions de gens qui sont venus en France... notamment littéraire.
Mais est-ce que l'Inde produit ses propres doctorats ?
Oui, sûrement, mais si vous voulez, ce n'est pas la même chose. Enfin,
vous n'êtes pas en concurrence, c'est ce que je veux dire.
Si vous voulez, les doctorats actuels, je vous en ai donné la liste. En fait, sur le plan mondial, les premiers sur le plan de la qualité sont les doctorats scandinaves. Ensuite, vous avez l'Allemagne et normalement la France, mais la France baisse. Et ensuite, vous avez la dégringolade avec l'Italie. Il se trouve qu'effectivement, en Afrique, vous avez beaucoup de gens titulaires de doctorats français et qui font forme l'élite actuelle des pays indépendants.
C'est-à-dire que la France dégringole, mais on n'est pas encore au niveau ni de l'Italie, ni de pays émergents qui pourraient nous concurrencer.
Ah, sur le plan, non, pas encore. Mais il faut faire attention, c'est pour ça que nous réagissons et que nous mettons en avant le doctorat d'État, comme si c'était une nostalgie. Ce n'est pas une nostalgie, c'est une volonté de reconstitution de quelque chose qui nous paraît important. J'en reviens toujours à cette idée. Faire un travail personnel qui comporte un risque et qui vous met à égalité avec des gens plus forts que vous, à mon avis, c'est l'âme même de ce qui est nécessaire pour faire un pays. Il faut avoir l'esprit d'entreprise, quel que soit le métier que vous fassiez. Et pour lancer... comment dirais-je, sur le plan littéraire, sur le plan scientifique, je pense ces deux-là particulièrement, parce qu'on n'en parle jamais, quelque chose, il faut progresser toujours et se remettre en question tout le temps. C'est-à-dire qu'après la thèse, c'est pour ça que je regrette que des gens plus âgés soient obligés de s'expatrier, on se remet tout le temps en question et ce n'est jamais fini. C'est-à-dire que la thèse n'est pas un point d'aboutissement, c'est un point de départ. Tandis qu'avec les thèses actuelles, c'est un point d'aboutissement, on a fait plaisir à un professeur. Et tout.
Comment influer sur cette réalité? Comment l'inverser, ce raisonnement?
J'en sais rien, moi j'essaye de le faire. Mais j'espère que justement, il y aura plusieurs Star Academy qui viendront nous inviter.
Est-ce que, parce qu'il y a quand même un paradoxe dans votre discours, c'est un, vous dites les docteurs d'État et les doctorats d'État sont tout à fait respectés à l'étranger. Et deux, on doit réagir absolument contre une menace sur ces diplômes. Ça veut dire qu'à moyen ou à court terme ou à long terme, vous voyez le diplôme ne plus rien valoir.
Non, c'est la menace que présente le gouvernement français. On n'est pas suicidé par les autres, on se suicide.
Oui, j'ai bien compris. Mais cette menace, vous la voyez se réaliser.
Ah ben, il y a une démagogie de plus en plus considérable. Par exemple, j'ai entendu M. Goulard et M. De Robien l'autre jour parler du fait qu'il ne fallait plus faire de sélection en deuxième et troisième année. Vous comprenez, c'est suicidaire, ça. Alors, M. Drobien, effectivement, n'a peut-être pas une qualification universitaire fantastique, mais quand même. Mais à mon avis, le gros problème, c'est que la thèse, je le répète, je ne l'ai jamais dit, bon, je le répète parce que je crois que c'est une bonne idée, la thèse est un point de départ et pas un point d'arrivée. C'est un point de départ de l'esprit d'entreprise et une thèse, comment sur une thèse, on en fait d'autres, où on fait la même encore plus avant. On critique sa propre thèse au bout d'un certain nombre d'années. C'est jamais fini. Et puis en plus de ça, on finit par avoir un argumentaire. Si l'argumentaire vous est soufflé comme à l'école, c'est foutu.
Ce qui demande donc
ce
travail personnel.
Je vous parlais des comptes rendus de chantier. Ce qui est intéressant dans le chantier, c'est pas celui qui fait le compte rendu, c'est celui qui fait le chantier.
Alors Jacques-Michel Durand, il y a une question quand même qui se pose pour le système éducatif français, auquel il faut quand même qu'on s'intéresse, c'est que, est-ce qu'il n'y a pas un partage des rôles entre l'université qui recueille tous les étudiants qui veulent bien y aller et qui ne subissent aucune sélection, et les grandes écoles qui, elles, sont très sélectives et qui vous donnent du boulot de toute façon? Autrement dit, l'université fait les frais de la politique égalitariste. Mais dans le fond, il y a une vraie sélection, seulement elle est par établissement ou par nature de filière.
Bonne question. Si vous voulez, autrefois, propédeutique, c'était plus sélectif que normal supérieur. Et nous avons toujours rêvé que les juristes, au lieu d'être tous bahutés dès le départ, comme ça se passait déjà il y a quelques années, aient également une propédeutique. Moi, j'appelle ça propédeutique. C'était mieux d'appeler ça études littéraires générales, mathématiques générales, tout ce truc comme ça. Mais il est un fait certain, c'est qu'à l'époque des propédeutiques, d'avant les propédeutiques, si vous voulez, il y avait une sélection telle que c'était l'équivalent d'une grande école. Et c'était ça, on ne trompait personne sur ses capacités. Les capacités du moment, pas après tout, plus vieux, on aurait peut-être pu passer cette propédeutique, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si vous voulez, l'actualisation des grandes écoles est excellente, tout ce que vous voulez, mais elle ne prépare pas forcément, justement, à la suite d'un doctorat. C'est comme ça. Si vous voulez, comme je vous disais toujours qu'autrefois, il y avait des polytechniciens qui étaient agrégés de grammaire. Évidemment, ça va ensemble. Mais il n'y a pas beaucoup de polytechniciens qui étaient doctoresses lettres. Nuance. Parce que c'est le travail personnel. La création.
Est-ce qu'on a besoin? C'est une question de fond.
Et la création, si vous voulez, par exemple, pour faire un barrage comme celui de Tignes et d'autres, c'est tout un travail de création. Et on y est encouragé, justement, par ce style de recherche.
Est-ce que le monde actuel, est-ce que l'économie, est-ce que le marché veut des personnes qui sont réellement des personnes qui pensent par elles-mêmes, quoi, un raisonnement personnel, une recherche personnelle, une pensée critique? Ce que l'on cherche aujourd'hui, ce sont de bons techniciens, et point.
Oui, alors ça, si vous voulez, c'est l'application.
Les filières comme celle du doctorat sont moins porteuses, moins recherchées, peut-être.
Oui, alors si vous voulez, l'application immédiate, il faut effectivement avoir des techniciens. C'est pour ça que je ne trouve pas mauvais d'être diplômé Vacher Porcher. Bon, mais c'est pas ça. Le problème, c'est que lorsque vous avez l'idée d'une réalisation, il faut quand même la cogiter, la construire avant qu'elle ne se réalise. Si vous voulez, il y a toujours un projet. On parle que des entreprises, mais il y a forcément un projet. Mais il n'y a pas que les entreprises, vous comprenez?
Mais alors sur cette idée-là quand même que si HEC, que vous citiez, réussit si bien c'est précisément parce qu'aujourd'hui, ce qui offre des débouchés, bah, c'est plus HEC que les études littéraires.
Oui, mais c'est pas forcément le même niveau. Hein. Et puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'HEC qui font des études de doctorat. Hein. En plus, c'est assez fréquent. Et cela d'autant plus que dans les premiers, quand j'étais HEC, quand après la guerre, elle a commencé à devenir ce qu'elle était. Parce qu'avec l'ESSEC, c'était l'équivalent de l'ESSEC, HEC, autrefois. Bon, il y a eu quand même quelques docteurs et sciences économiques qui s'en sont occupés. Figurez-vous. Ça a l'air idiot, mais c'est vrai.
Est-ce que vous obtenez des soutiens de la part de grandes écoles, qu'il y a des synergies dans votre action avec...
Non, pas du tout pour le moment, puisqu'on ne l'a pas cherché de toute façon.
Et vous allez
mais
le rechercher?
Mais nous avons des gens qui cumulent doctorat et grandes écoles. Ça existe quand même.
Avec toutes les personnes...
Il y a beaucoup de... Oui, il y a toutes les natures de gens chez nous. Mais justement, ce qui est dommage, c'est que justement, les grandes écoles, c'est utile comme propédeutique, mais ce n'est pas évident pour tous les domaines. HEC, c'est uniquement sciences économiques. Comprenez ?
Jacques-Michel Durand, avec toutes les personnes brillantes qui sont au sein de la Fédération mondiale des docteurs d'État et diplômés des universités de la France, vous devriez quand même avoir un certain nombre de leviers pour faire évoluer la situation. Est-ce que vous êtes optimiste ?
Ah, moi, si on fait quelque chose, il faut forcément être optimiste. Ceci étant, être optimiste, c'est voir les choses tout le temps du bon côté. Il ne faut pas rêver non plus. Moi, je suis réaliste. Et je crois qu'effectivement, j'ai l'âge que j'ai, hein, et j'ai une équipe qui est plus jeune que moi. Donc, je pense que ça devrait marcher. Mais ceci étant, il y a tout un avenir possible du simple fait que, par exemple, pour les juristes, les économistes, on s'en est beaucoup occupé. Par contre, les littéraires, personne ne s'en est vraiment jamais occupé. Et je pense qu'il faut absolument arriver à ce que les littéraires aient leur place, parce que c'est indispensable, surtout maintenant, dans la compétition des langues, notamment. Et la communication, c'est quand même quelque chose de littéraire. Et dans les littéraires, j'en reviens à ça, c'est que quand même, il y a toutes ces études sociologiques, de morale sociologie, de philosophie, de psychologie, de psychiatrie, etc., qui avoisinent la médecine, mais qui n'en font pas forcément partie. Il y a tout un boulot à faire. Mais moi, en sens que je suis optimiste, c'est précisément parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Car je crois qu'être stagnant, ça ne veut rien dire. Moi, qu'est-ce que vous voulez, j'ai une mentalité d'entrepreneur, et c'est un peu pour ça qu'on a créé ça. Mais j'aime pas me casser la gueule. La preuve, c'est que mon entreprise ne s'est jamais cassée la gueule.
Merci beaucoup Jacques-Michel Durand de vous être exprimé ainsi donc sur la Fédération mondiale des docteurs d'État et diplômés universités des universités de la France, de nous avoir fait partager votre analyse sur les diplômes et à travers tout cela la situation du système éducatif français qui, comme on l'a bien compris, est contrastée, qui a des raisons d'espérer, et bon courage dans l'œuvre qui est la vôtre. Merci.